Vous êtes sûr que Proust était homosexuel, Thérèse ?
Dites-moi, mon petit vieux, pour faire de la littérature, attendez la retraite.
C'est important, la lecture. Je te vois jamais lire, toi, Polo.
Apprenez-moi à monter comme un homme.
Et à chiquer du tabac comme un homme.
À cracher comme un homme.
Quoi ? On vous l'a pas appris à la fin de vos études ?
Bonjour, vous êtes sur Scilab et vous écoutez J'irai cracher sur vos ondes, l'émission qui s'intéresse aux objets et aux faits de littérature. Ce soir, confinement oblige, l'équipe de J'irai cracher sur vos ondes a renoncé au plaisir et à l'angoisse du direct, et vous a concocté une petite émission maison, bricolée depuis nos canapés à grand renfort de café et de chocolat chaud. Au programme de notre émission de ce soir, des moulins, un marathon créatif et des libraires confinés. Cette dernière chronique, c'est en quelque sorte le premier épisode d'un cycle sur la lecture et le confinement. Je ne vais pas trop vous en dire pour l'instant, mais pour les émissions à venir, on va continuer à interroger notre rapport à la littérature et à notre façon de la consommer dans cette situation particulière. Et quand je dis « notre », c'est littéralement de nous dont je parle, les gens qui préparent cette émission. C'est pour cela que durant la durée du confinement, nous lançons une petite chronique hebdomadaire. Chaque semaine, un membre de l'équipe prendra quelques minutes pour vous raconter comment ça se passe chez lui ou chez elle, côté lecture et confinement. Et ce soir, c'est Sophie qui s'y colle.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir. Ici Sophie, votre chroniqueuse en érotisme préférée. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour discuter de nos pratiques de lecture en ces temps de confinement. Car oui, en ces temps bien étranges où chacun est forcé de tenir les murs, je suis comme vous, mes chers, et je tente de frayer un chemin à l'érotisme malgré les écueils. Par la contrainte, il semblerait donc que le confinement nous pousse à explorer nos propres confins. Voilà donc pour vous quelques lectures épicées à vous mettre sous la dent. Alors perso, je suis assez chanceuse pour avoir éclaté mon portefeuille dans plein de bouquins juste avant le confinement. Donc ordinairement, je me traîne entre un et deux romans. Mais au vu du changement de paramètres depuis ces 3 semaines, je lis énormément. Et au vu de la tension actuelle, je dirais que je lis avant tout pour le plaisir. Romans noirs et romans érotiques seulement. Du côté des romans noirs, je n'en citerai que deux. Deux romans américains contemporains. Un mot d'abord sur Le Diable tout le temps de Donald Ray Pollock aux éditions Livre de poche traduit de l'américain par Christophe Mercier et paru en 2011. Pour les grands fanats du roman noir américain, honnêtement, je vous défie de vous immerger dans l'univers morbide de Pollock et de vous confronter à ce festival de monstres humains glaçants qui offre de l'Amérique un tableau moralement apocalyptique. Personnellement, je le grignote en arrière-plan de mes autres lectures, juste histoire de garder cette coloration glauque chère à mon cœur. Mon second roman est La confrérie des mutilés de Brian Evanson, publié en 2006 dans la collection 10-18 et traduit de l'américain par François Smith, genre de roman à concept reprenant les codes les plus sombres du polar qu'il bâtardise en le matinant d'un absurde cinglant. Je vous l'aurais joyeusement speeché en deux, mais honnêtement, lisez-le seulement et laissez-vous embarquer par l'écriture ciselée d'Evanson, ça vaut vraiment le coup. Du côté érotique, je passerai plus rapidement parce qu'il y en a plus. J'ai avalé en une matinée Le fils de Lot de François-Paul Alibert aux éditions La Musardine, paru en 98. Grand classique de la littérature d'inspiration homosexuelle, récit hautement lyrique d'une idylle et d'une inceste. Voilà. À côté de ça, j'ai investi dans une très belle édition des œuvres érotiques de Pierre Louis, l'auteur classique, son œuvre cachée donc, aux éditions Robert Laffont. Un très joli livre, partagé entre rose tendre, noir d'encre, rouge sang et or délicat. Une édition dont on notera qu'elle a été élaborée par Christian Lacroix et qui regroupe donc une bonne partie de l'œuvre secrète de Pierre Louis. Ma troisième lecture érotique n'en est pas vraiment une puisque je l'ai écoutée au lieu de la lire. Et big up au livre audio, honnêtement, c'est le moment ou jamais pour vous y mettre. N'hésitez pas à redécouvrir le plaisir de vous entendre murmurer à l'oreille des cochonneries. Je vous assure que ça vaut le coup. Histoire d'eau, c'est un classique des classiques par Dominique Auray, en vérité. Je tiens cependant à avertir les petits curieux, vous vous tenez au seuil d'une lecture terrible. Ce récit est celui d'une volonté qui s'abandonne, qui se délivre de son individualité, de son intégrité, et la violence y est hautement présente. Je n'ai pas le temps ici de développer l'histoire piquante de ce roman, mais je ne crache pas sur l'idée de vous en faire une chronique un jour, affaire à suivre donc. Mes deux dernières lectures, du moins celles que j'aborderai ici, concernent l'œuvre d'Henry Miller, Sexus, le premier volume de sa trilogie scandaleuse, et Opus Pistorum, qualifié comme le roman le plus obscène d'un écrivain lui-même considéré comme un summum de l'obscénité dans son siècle. Voilà donc pour ces quelques lectures. En dernier, je voudrais simplement évoquer rapidement la collection Fumetix aux éditions Dynamite, qui se charge de rééditer au format poche un grand nombre de Fumetti per adulti, ces bandes dessinées en séries populaires, drôles et érotiques, publiées dans les années 70 en Italie. de l'encre très noire, de l'humour, du cul. Voilà les quelques notes sur lesquelles je vous laisse retourner à vos intérieurs, en vous souhaitant de bien agréables lectures, de les partager, et d'échapper ainsi peut-être à la pression du quotidien. À très vite.
Merci Sophie. On continue de suite avec la chronique de Marion, qui poursuit sa redécouverte des classiques de la littérature.
Bonjour à toi, auditeur confiné. Alors cette semaine, on continue notre exploration des classiques qu'on n'a jamais eu le temps de lire, mais que maintenant que c'est le confinement, ce serait-il donc pas le moment idéal? Mais qu'en même temps, si c'est la fin du monde, ça sert à que dalle, donc autant jouir sans entrave, YOLO. Mais comme c'est le confinement, retour à la case départ. Aujourd'hui, je vais vous parler de Don Quichotte, de Cervantes. Vous avez sûrement déjà entendu parler de Don Quichotte, même si vous ne l'avez probablement jamais lu. Personne ne vous en veut, hein, 1200 pages, ça donne plus envie de caler un meuble avec que de le lire. Donc vous ne l'avez jamais lu, mais le nom vous dit vaguement quelque chose. Hein. C'est un peu le principe des classiques. Voire même, votre capital symbolique vous permet de savoir grosso merdo qu'il s'agit d'un chevalier et qu'à un moment dans le livre, il y a une histoire de moulin à vent. Ce qui n'est pas faux, hein. Bon, en vrai, Don Quichotte, c'est un hidalgo, un gentilhomme, d'une cinquantaine d'années, pas pauvre, mais pas riche, qui mène une vie plutôt oisive, c'est-à-dire que l'année durant, il chill, essentiellement. Et quand il chill, il lit des livres de chevalerie, parce qu'au XVIIe siècle, il n'y a pas Internet. Et ce qui devait arriver, arriva. Don Quichotte, il se prend à avoir envie de plus que cette vie morne et monotone. Il a envie de grandeur, de noblesse, d'aventure. Bref, il a envie d'être un chevalier errant, du genre classe, du genre qui combat fièrement et valeureusement pour l'honneur de sa bien-aimée, Dulcinée, du Toboso. Et même si la plupart des gens, pour eux, la chevalerie errante n'a jamais eu d'autre réalité que littéraire, Don Quichotte, il s'en fout, il y va, il décide de faire comme dans les livres qu'il adore. Et oui, bien vu ma mignonne, exactement comme dans Madame Bovary de Flaubert. Et maintenant, lors de vos soirées mondaines, vous pourrez épater vos amis en lâchant d'un air désinvolte que, finalement... Le bovarisme n'est qu'un quichotisme tragiquement féminisé. Voilà, ça devrait rabattre le caquet de n'importe quel pédant lettré, mais du coup, vous deviendriez vous-même un pédant lettré. À vous de voir. Maintenant, je vais commencer la partie de ma chronique où j'essaye fourbement de vous montrer à quel point ce livre est chouette et qu'il faut absolument que vous le lisiez. Déjà, je vais rassurer ceux du fond de la classe, oui, c'est un bouquin qui a été écrit il y a des plombes, et oui, la langue en est un peu vieillotte, et pour ceux qui ne sont pas fans du français à la Molière... qui se rapproche en traduction de l'espagnol de Cervantes, ça peut rebuter. Mais déjà, j'ai envie de vous dire que le subjonctif imparfait, on s'y habitue très vite, que c'est drôle en soi tellement c'est moche, et que même parfois, ça donne Don Quichotte qui avoue, je cite, « Encore que je suce bien !» Voilà, bon, moi ça me fait rire. Ensuite, il faut vous imaginer qu'en fait, Don Quichotte, c'est un peu comme les visiteurs. Parce que Don Quichotte, en fait, il est pas tout seul, il est accompagné de son fidèle écuyer Sancho Panza, anciennement gros paysou du coin, que son nouveau maître a recruté en lui promettant qu'il lui filerait une île à gouverner une fois qu'il serait devenu riche et célèbre, ce qui, selon Don Quichotte, ne peut manquer d'arriver à tout chevalier errant. C'est QFD. Et donc Don Quichotte, ce serait Godefroy de Montmirail, et Sancho Panza, c'est Jacouille. Dans le film comme dans le livre, on retrouve le même jeu sur le langage, parce que déjà, à l'époque où Cervantes écrit, la manière de parler de Don Quichotte produit le même effet que celle de Jean Reno qui hurle « Mon roi, Saint-Denis, que trépasse si je faiblis !» avant de se faire démonter par un escadron de CRS. Par exemple, quand Don Quichotte se parle à lui-même comme s'il narrait ses aventures, au lieu de dire quelque chose comme « Au lever du jour », lui, il dit, je cite, « À peine le blond Phébus avait-il étendu sur la spacieuse face de la terre immense les tresses dorées de sa belle chevelure, à peine les petits oiseaux nuancés de mille couleurs avaient-ils salué des harpes de leur langue dans une douce et mielleuse harmonie, la venue de l'aurore au teint de rose qui, laissant la molle couche de son jaloux mari, se montre au mortel du haut des balcons de l'horizon castillan, que le fameux chevalier Don Quichotte de la Manche, abandonnant le duvet oisif, monta sur son fameux cheval Rocinante et prit sa route à travers l'antique et célèbre plaine de Montiel. » Voilà, donc cette façon de parler de Don Quichotte, qui est empoulée et inutilement sinueuse et alambiquée, fait que, comme pour Godefroy de Montmirail, en fait, et malheureusement pour Don Quichotte, les gens qu'il rencontre ne bitent souvent que dalle à ce qu'il raconte et le prennent pour un grand malade. Du coup, il se fait traiter de taré, du coup, Don Quichotte se vénère, du coup, ils se battent, et du coup, Don Quichotte se fait salement dérouiller. Mais c'est pas grave, parce que Don Quichotte, il s'est fabriqué un baume magique dont une seule gorgée vous guérit en 2-2, même si ça marche pas toujours complètement. Petit extrait après une bataille, Don Quichotte qui dit à Sancho, je cite, « Approche, et regarde combien il me manque de dents, car je crois en vérité qu'il ne m'en reste pas une seule dans la bouche. » Sancho s'approcha de son maître, et si près qu'il lui mettait presque les yeux dans le gosier. C'était alors que le baume venait d'opérer dans l'estomac de Don Quichotte, et au moment où Sancho se mettait à regarder l'état de ses mâchoires, l'autre leva le cœur et, plus violemment que n'aurait fait une arquebuse, lança tout ce qu'il avait dans le corps à la barbe du compatissant écuyer. Sainte Vierge ! S'écria Sancho. Qu'est-ce qui vient de m'arriver là ? Sans doute que ce pêcheur est blessé à mort puisqu'il vomit le sang par la bouche. Mais dès qu'il y eut regardé de plus près, il reconnut, à la couleur, odeur et saveur, que ce n'était pas du sang, mais bien le baume de la burette qu'il lui avait vu boire. Alors il fut pris d'une si horrible nausée que le cœur aussi lui tournant, il vomit ses tripes au nez de son seigneur et qu'ils restèrent tous deux galamment accoudrés. Je sais pas vous, mais moi c'est le genre de scène qui me fait rire, d'autant que je rappelle que le titre du chapitre est « Où l'on raconte l'entretien qu'eurent Sancho Panza et son seigneur Don Quichotte avec d'autres aventures bien dignes d'être rapportées ». Donc bon voilà, déjà en lisant les titres des chapitres, on sait qu'on va se poiler, parce que les titres ils sont modelés sur un peu la solennité et la grandiloquence des romans de chevalerie, mais leur contenu réel est plus proche du vaudeville et de ses bastonnades. Finalement, on retrouve le même écart entre les titres de chapitres et leur contenu réel qu'entre l'histoire que se raconte Don Quichotte à lui-même et les aventures qui lui arrivent vraiment. Comme quoi, comme toujours, l'ingrédient secret, c'est la distance ironique. Et c'est pour ça que Don Quichotte, c'est pas seulement les visiteurs, c'est aussi un peu Camelot. Avis aux fans de la série, il y a du Perceval dans Don Quichotte, qui est à la fois naïf et hyper lucide. Il y a aussi du Perceval dans Sancho, qui remplace souvent un mot par un autre. Mais il y a aussi du Caradoc chez Sancho, qui trouve toutes ses prises de parole de dicton et d'expression. Il y a aussi du Lancelot dans Don Quichotte. Bref, si vous avez aimé les personnages d'Astier, vous en retrouverez pas mal la trame dans ceux de Cervantes. Et quitte à attendre la sortie du film Camelot, et comme vous connaissez déjà tous les épisodes par cœur, moi je vous dis, pour se mettre dans l'ambiance, je vous conseille Don Quichotte. Les chapitres ils font très rarement plus d'une dizaine de pages, et le roman est construit autour de plein de petites histoires enchâssées, donc à consommer par petites bouchées, un ou deux chapitres à la fois, comme les épisodes de Camelot quoi. Moi je vous le conseille au réveil avec une tasse de café, histoire de bien commencer la journée. Voilà, un ou deux chapitres par jour, vous en avez pour deux ou trois mois, de quoi tenir le coup jusqu'à la sortie de Camelot. Pour ceux qui n'aiment pas Camelot, ne perdez pas espoir, peut-être qu'en lisant Don Quichotte, vous apprendrez à trouver en vous le chemin du second degré. Parce que le truc avec Don Quichotte que tout le monde prend pour un fou, c'est qu'au final, il est pas si con. Il a simplement décidé de reconnaître et d'assumer le fait qu'il soit le narrateur de sa propre vie. Oui, je sais, c'est beau. Et finalement, hein, on est tous le fou ou le con de quelqu'un. On est tous un peu fous quand on aimerait que le monde soit autrement qu'il n'est. Mais qui décide de ce qu'est le monde, si ce n'est moi ? Mes amis, du vomi à la philosophie, il n'y a qu'un pas. Alors la morale du tome 1 de Don Quichotte, c'est que quand quelqu'un vous paraît fou, ça sert à rien d'essayer de lui faire entendre raison. Et puisque tout est narration, il suffit de créer la vôtre. C'est ce que font le curé et le barbier du village de Don Quichotte, qui lui offrent une sorte de mise en scène un peu chelou à base d'enchanteurs et de magie, afin de pouvoir l'enfermer dans une cage et le ramener gentiment chez lui pour qu'il arrête d'aller se taper avec le premier venu. Et regardez Macron, par exemple. Bon, bah le mec se croit en guerre contre un ennemi invisible. Il veut aller se battre, à main nue, contre des moulins à vent. Faut le laisser, faut rentrer dans son jeu. On dit oui par devant, et puis on lui dit qu'on est tellement en guerre que pour sa sécurité, la sécurité de notre chef adoré, on doit le mettre en sécurité dans un bunker, dont on ne peut lui donner la localisation, ni à aucun de ses proches, pour la sécurité desquels on décide de les emmener aussi, et bam, problème réglé. Ah, je crois que le monde a besoin de mes stratagèmes à la con. Bon, je crois que c'est décidé. Je crois que je vais devenir chevalière errante. D'après Don Quichotte, il me faut juste une dulcinée à qui adresser mes exploits. On dira que ce sera mon chat. Et il me faut aussi une monture. Mon vélo fera l'affaire. Faut vivre avec son temps. Et après tout, ça se dit littéralement cheval d'acier en breton. Si, si, je vous jure. Bon, bah je crois que je suis prête, je vous laisse et je m'en vais par les routes. Prouver la valeur de mes bras et la force de mon courage, soutenue par l'amour que je porte à qui, dans les félines dont la pensée brûle mes songes et mes nuits.
Con la red, oh, en mejor manera.
c'était Hera et Nae Volare. Vous êtes sur Syllab et vous écoutez J'irai cracher sur vos ondes. Merci Marion pour cette folle chronique. Auditrice, auditeur, j'espère que cela t'a plu à toi aussi. Sache en tout cas que Marion souhaite te mettre à contribution. Elle a déjà lu pour toi La Peste de Camus, Don Quichotte de Cervantes, mais pour la prochaine fois, elle a besoin de toi. Pour l'aider à choisir sa prochaine lecture, écris-lui sur notre page Facebook ou lâche un DM sur Twitter, @JICSVO, pour lui suggérer un titre. Attention, nous n'accepterons que les œuvres tamponnées par le label classique de la littérature française. Ce message passé, reprenons la course. Non, pas celles au moulin, mais celles contre la montre avec ce sujet sur les 23 heures de la bande dessinée. Pour commencer, peut-être qu'on peut prendre quelques minutes pour se dire qu'est-ce que c'est les 23 heures de la BD. Sur la page du site officiel, on peut lire ces quelques mots.
Les 23 heures de la BD sont un marathon artistique qui se déroule sur Internet. Il faut créer une bande dessinée de 24 pages avec un thème et une contrainte imposée dans un délai de 23 heures. Tout le monde peut participer, quel que soit son niveau ou son âge. Pas de jury, mais un compteur. Les plus rapides décrochent un lapin d'or ou un lapin rose, les retardataires, un lapin d'argent.
Bon, c'est bien joli tout ça, mais on va remonter à la source. Tout commence en 1990. Avec Scott McCloud. C'est un grand théoricien et un grand praticien du 9e art. Il ne s'agit alors qu'une petite aventure amicale, un challenge entre connaissances, qui va vite prendre de l'ampleur. Si Pierre qui roule n'amasse pas mousse, la pente enneigée a vite fait de transformer ce petit éboulis en avalanche. 14 ans plus tard, pour les matheux contrariés, ça veut dire 2004, l'événement 24 Hours Comics Day a lieu de façon officielle. Dès 2007, c'est plus de 1200 participants et participantes qui vont plancher en moins de 24 heures. 2007, c'est aussi l'année du lancement de la petite sœur française, les 24 heures de la BD. Le défi voit alors le jour sur la scène Tourangelle, dans un petit atelier partagé par quelques artistes. Mais il ne tarde pas à se développer lui aussi. S'ajoutent ainsi les 23 heures, puis les 25 heures de la BD. Parce que quitte à changer d'heure, pourquoi pas changer, je veux dire, démolir son rythme de sommeil. Et puis le challenge se complexifie. Si au départ il n'y avait qu'un thème, s'ajoute ensuite une contrainte. Puis viennent quelques autres règles. Par exemple, pour que votre participation soit considérée comme une vraie BD, vous n'avez le droit qu'à 3 pages pleines. C'est-à-dire que sur vos 21 autres pages, vous aurez un minimum de 2 cases. Ainsi renseigné, j'ai décidé de... Non, c'est faux bien sûr. J'ai fait mes recherches uniquement pour la chronique. Hein. À l'époque, je me suis embarquée dans l'aventure sur un coup de tête, 48 heures avant l'annonce du thème. Mais pas bête la guêpe, je me suis pas précipitée toute seule. Non. J'ai emmené avec moi un petit pote de galère, mon coloc de confinement, l'homme derrière 50% de mes lectures dans cette émission. Théo et moi, nous avions formé un super binôme. Lui, c'est plus le genre à passer des heures à dessiner des décors en se compliquant la vie. Par exemple, si monsieur veut dessiner une cathédrale, il va se lancer dans la reproduction exacte de l'angle d'inclinaison des arcs-boutants. Il va tout donner pour respecter les lois de la perspective, peu importe la vue proposée. Et enfin, il se fera une joie d'ajouter des vitraux gothiques au réseau de pierres quadrilobées. Quant à moi, je suis plus team si j'ai continué à prendre des notes sur papier dans l'amphi, c'est uniquement pour créer des petits personnages rigolos dans les marges pour refléter mon état d'esprit du moment. Sans surprise, 90% d'entre eux ont le cerveau qui implose, le crâne qui fume et les yeux qui implorent pour le doliprane. On a ainsi commencé à se préparer. On a fait des petits plans d'avance, on a prévu des biscuits, on s'est entraîné à dessiner à quatre mains, pas tant pour voir ce que ça allait donner au niveau du dessin, mais plus pour expérimenter ce que c'était d'être à plusieurs dans ce processus auparavant solitaire. On a ainsi élaboré toute une grammaire pour communiquer ensemble, une manière de se coordonner dans l'écriture d'une histoire, sa réalisation sur papier, sans oublier la numérisation et les quelques retouches sur ordinateur. Le jour venu, nous étions prêts. Enfin, on pensait l'être, ce qui est déjà pas mal. Le thème annoncé par un certain libraire, celui qui tient le blog « Les libraires se cachent pour mourir », était le suivant. La frontière entre réalité et imaginaire. A priori, c'est un hommage à Calvin et Hobbes. Mais comme j'ai pas la ref, j'ai décrété que c'était plutôt un clin d'œil à l'univers du papa de Philémon et une invitation à me vautrer dans les références à Gérard de Nerval. Si, tu sais, le mec qui a écrit « Aurélia, le rêve ou la vie ». Quant à la contrainte, elle était choisie cette année par Autrice Auteur en Action 2020, un collectif qui, comme son nom l'indique, a vu le jour cette année. Car, comme tu le sais peut-être déjà, toi qui m'écoutes derrière ton poste radio ou ton application mobile, et qui donc a en mémoire notre interview de Samantha Bailly de la Ligue des auteurs professionnels, tu sais déjà que 2020, c'est une année de lutte pour les actrices de la BD. Il est donc tout à fait judicieux d'avoir ce type d'actrices représentées lors de cet événement, qui réunit nombre d'amateurs de tous bords, pour certains bien engagés sur la voie de la professionnalisation. Mais quelles contraintes ont-ils donc choisies ? Je vous le révèle.
un élément ou un personnage doit être intouchable. Sûrement une référence au versement après contrat. Oui, le monde du travail, a fortiori de l'édition, est un monde bien cruel. Ainsi, on s'est lancé. J'avançais sur le storyboard, Théo commençait les décors. J'ai fait une page résumant grossièrement toutes les planches. Puis j'ai créé un storyboard bien plus détaillé, spécifiant la vue, lui précisant les ajouts que je ferai ultérieurement, indiquant le texte présent sur la case. Et puis on se dit que ça c'est simple, alors on va juste écrire forêt, fil de laine, évasion. Et on va se faire un petit thé. On se lance des vannes, on trouve qu'on avance bien. C'est vrai, après tout, on a l'histoire complète. Bon, il y a 2-3 planches, on a dit qu'on verrait plus tard, mais ça va aller. On refait un thé. Putain, il est 20h et on a fait les 3 premières planches seulement. Ce qui veut dire en réalité qu'on a une pseudo-couverture, avec un titre, nos noms dessus et puis basta, et 2 illustrations de train. Va vraiment falloir se manier. Mon thé est froid. Déjà 2h du matin. Théo est parti dormir, et je face devant ce post-it énigmatique qui résume la planche 19. Abandon, boussole, nuit noire. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Il est 9h. On a remonté la pente, grappillé un peu de sommeil. On donne tout ce qu'on a pour finir dans les temps. Midi. Ça y est, putain, on l'a fait, on a fini. C'est parfait. 1 heure, c'est largement suffisant pour charger toutes nos planches sur le... Oh non, merde. Le site a craché. Bah oui, pauvre poire. T'as des centaines de personnes qui font exactement la même chose que toi. Tu m'étonnes que l'upload soit en PLS. Bon, pas grave. On va refaire du thé. Bon, je me doute que mon expérience est loin d'être représentative. Après tout, sur cette édition, on était quand même 1400 personnes. Et si, justement, on allait en rencontrer quelques-uns ? Bougez pas, je regarde mon agenda, je planifie ça, et pendant ce temps-là, je vous laisse avec un petit peu de musique. En attendant que je rebondisse, je vous invite à écouter Trampoline par Edam Edam. I feel happy because it's you. My dirty mind, I've got the trampoline. Water, 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 need a stop, don't you? There is nothing, nothing, nothing you can do. And this is fine. Dream of from my mind, my trampoline. You know it's tough to live sometimes, you're unfit. Out of the line, and what is that keeping up when I feel down? You ask when I jump on. Wanna, wanna, wanna need a stop, don't you? There is nothing, nothing, nothing you can do. And this is fine. Just remove from my mind my trampoline. Wanna, wanna, wanna need a stop, don't you? There is nothing, nothing, nothing you can do. And this is fine. Just remove from my mind my trampoline.
On avait commencé à parler des 23 heures de la BD, un marathon créatif où l'on réalise une bande dessinée de 24 pages en seulement 23 heures. En tout cas, on essaye. Je vous propose tout de suite de faire connaissance avec 4 dessinatrices amatrices de petits lapins.
Je m'appelle Flora, je suis étudiante en illustration à...
Je m'appelle Nathan, je suis graphiste, je fais les 23 heures depuis à peu près 2016.
Je m'appelle June, ou du moins mon pseudo d'artiste c'est June as in July, je suis illustrateur très amateur. Je fais principalement des études de théâtre, donc dans un autre domaine artistique, et je fais du dessin principalement pour mon plaisir, de la BD et de l'illustration.
Moi, c'est Frix, et ma devise, c'est « je fais des dessins que tu peux acheter pour mettre dans tes chiens ».
Première question pour mes petits lapins. C'est quoi les motivations pour participer à ce type d'événement ?
Déjà, j'avais envie de participer par rapport à l'année dernière, sur le 23h, je m'étais un peu dégonflée, quoi. J'avais un peu mon ego qui était un peu, genre, touché en mode... Oh là là, et tout. Et puis, j'étais aussi motivée parce que j'avais des potes qui faisaient du dessin, qui le faisaient aussi. Et c'était une bonne manière de discuter pendant 23 heures au téléphone avec ses potes et de parler de dessin et de rigoler, quoi.
J'adore la BD et j'essaye de m'y mettre au quotidien. Genre, j'ai un webcomic que j'ai un peu abandonné et que j'aimerais reprendre. Et justement, je trouve que les 23 heures, ça m'aide à... Enfin, ça me force à faire une BD, en fait. C'est un laps de temps... un sujet et c'est beaucoup plus motivant que juste quand t'as toute ta vie pour faire quelque chose. Là, ça te force un peu, je trouve, à y aller. Et j'y retourne chaque année parce que bah, la communauté est sympa et les thèmes sont toujours agréables. Puis à chaque fois, j'ai un lapin d'or, donc, donc du coup, j'ai envie d'y retourner pour gagner. Après, je pense que même si je ne l'avais pas, je continuerais, mais c'est vrai que c'est satisfaisant.
J'ai plusieurs amis qui participent aux 24-3 heures de la BD depuis très longtemps. Et souvent, ils m'en parlaient et je lisais leur BD. Et je m'étais dit, tiens, que j'avais envie d'essayer aussi un de ces quatre. D'habitude, je n'ai pas le temps. Là, il y avait le confinement. Et néanmoins, on m'a prévenu que 2 heures avant, enfin, je n'avais pas trop suivi l'actu, et 2 heures avant les 13 heures, le début du challenge, mon ami Nathan me dit, hey, au fait, c'est les 23 heures de la BD aujourd'hui. Donc, j'ai décidé le jour même que j'allais y participer.
Un rythme de sommeil niqué par le confinement, autant en profiter pour être créatif. Et en fait, bah, tout simplement, c'est un challenge que j'aime beaucoup, auquel j'essaye de participer tous les ans depuis 5 ans. Mais avec les aléas de la vie, j'ai pas trop pu y participer ces dernières années.
J'ai participé cette année justement parce que j'étais un peu en période de j'arrive pas à dessiner, je sais pas quoi faire, ça m'énerve. Et du coup, bah. Je trouve que c'était un bon moyen de se mettre sur les rails de la créativité.
J'avais envie, disons, de faire que... Bah, un peu, enfin, je suis un habitué du NaNoWriMo à côté ou d'autres challenges en tout genre de dessin, d'écriture, le Inktober ou des choses comme ça. Et j'aime bien cette idée, disons, que pendant un temps limité, je me consacre que à ça, mon esprit, il est que à ça. Quitte à se malmener un peu, à chambouler un peu la routine, c'est, disons, faire une expérience créative pendant un temps limité où je donne tout là-dedans et voir le résultat derrière.
C'est 23 heures pendant lesquelles tu fais de la BD. Mais plus que ça, ce qui est très sympa, parce que tu as tout un peu une énorme émulsion créative sur Internet où tous les artistes se soutiennent les uns les autres. On est un peu bah, tous dans la même merde ensemble.
Ensuite, j'ai voulu savoir si j'étais la seule masochiste en puissance à s'être compliqué la vie sur un challenge déjà pas si évident.
Cette année, je m'étais un peu mise des contraintes. Je voulais absolument travailler à la gouache. Je pense que tous mes amis ont cru que j'étais tombée sur la tête.
Et à chaque fois, on s'amuse à jouer un peu avec les règles. Par exemple, cette année, on a fait une page, une case. Donc, première page, une case. Deuxième case, deux pages, deux cases, etc. Donc, à la fin, on se retrouvait avec une planche de 24 cases. Ça fait 300 cases en tout. Du coup, ça fait un bon défi. C'est pas forcément facile. Une année, on a fait... les 25 heures en body painting sur la même personne, toutes les cases. Donc, du coup, c'était vraiment un challenge parce que bah, sur un bras, il y avait 3 cases, sur les jambes, il y avait d'autres cases et on faisait des jeux de perspective. Genre, première case sur un pied, deuxième case sur le deuxième pied qui est un peu plus loin.
J'avais l'objectif parce que j'aime bien me mettre des défis de réussir les 23 heures de la BD, ce que je n'ai pas réussi au final. Mais effectivement, je ne me suis pas préparée en amont et je n'avais pas de grosses idées en tête avant de participer.
J'avais juste prévu mes deux personnages parce que, va savoir pourquoi, hein, j'avais très envie de dessiner deux petites napkins lesbiennes. Et donc, du coup, ben, j'ai fait deux petites napkins lesbiennes, tout simplement.
Bon, pour les marathons, les sportifs mangent leurs nouilles, Rocky Balboa frappe des carcasses bovines. Que font les dessineux ?
Alors, cette année, c'était un peu à l'arrache parce que j'étais pas sûre de participer.
Perso, je m'étais pas du tout préparée.
J'y suis vraiment allée en ayant en tête, tu auras pas le lapin d'or, tu feras pas tes planches dans les temps, vise le lapin d'argent.
Je m'étais juste dit, ok, bon, quand ça va commencer, il va falloir que je gère mon upload. Parce que bah, l'année dernière, pour les 25 heures, j'avais eu des gros problèmes sur l'upload et sur le format. Et j'avais même pas genre, un peu compris à quel point l'upload sur le site, c'était compliqué. À quel point le format, c'était pas du tout un format conventionnel. Et du coup, là, dès que j'ai commencé, le but, c'était de directement voir le format, directement voir l'upload, quelle était la taille de fichier et tout. C'est-à-dire que je prenais une photo avec mon téléphone et pour le site, c'était trop lourd. Je me disais, ok, c'est sûr, je vais devoir passer par Photoshop pour réduire mes qualités d'image et tout.
La seule préparation contrainte que j'ai fait à l'avance, c'est que je me suis préparé une palette de couleurs réduite pour pas... avoir à réfléchir là-dessus au moment M et gagner du temps là-dessus.
Je m'étais dit que j'allais pas trop me surmener parce que j'ai des problèmes personnels qui font que j'ai pas envie... Enfin, même si c'est 23 heures, j'avais prévu de manger, j'avais prévu de dormir.
Oui, bah ça, c'est des choses en fait qui sont venues plus avec mon expérience d'artiste-auteur que pour ce marathon-là, mais que j'ai appliqué un peu en augmenté pour ce marathon-là. Et c'est des choses qui sont en fait assez basiques, mais auxquelles on ne compte pas forcément, par exemple, faire des pauses toutes les 2 heures pour s'étirer, boire de l'eau, si on travaille au numérique, regarder un petit peu autre chose que son écran pour se reposer les yeux, se prévoir des petits snacks de récompense pour voilà, pour avoir une petite carotte pour avancer.
J'avais acheté un paquet de bonbons qui piquent parce que c'est un peu la base. On était hyper fatigués, en tout cas pour moi. Les bonbons qui piquent et le jus de fruits, c'est vraiment le truc qui me, bah, qui me donne du sucre. Du coup, je suis un peu plus excitée et ça me permet de tenir un peu sur la longueur.
C'est-à-dire, ah, toutes les 5 planches, j'ai droit à un cookie, ou toutes les 5 planches, j'ai droit à un thé, ou ce genre de choses. Donc, ça permet de ne pas bâcler ces dernières planches et d'être à fond, de A à Z, pendant tout le challenge.
Et puis, préparer des trucs avec des potes pour essayer d'être ensemble et de se soutenir un peu dans la difficulté des heures très tardives.
J'avoue, ça m'amuse un peu la façon dont chacun avoue ne rien avoir préparé, alors que finalement, quand on creuse un peu, bah justement, j'ai creusé un peu et bah je me dis que c'est peut-être là le signe d'une habitude à dénigrer la charge mentale que cela demande. C'est pas rien de se préparer cette logistique, de réfléchir à l'optimisation de son temps. De même, c'est pas rien que de se priver de sommeil pour dessiner 24 planches sur une période qui est plus habituellement consacrée à la création d'une seule et unique page. À les entendre, je me rends compte que ce type de marathon créatif est un peu pris entre deux feux. Celui d'une expérience libératrice, un feu émancipateur qui exulte leur potentiel créatif et leur permet de se dépasser plus que jamais. Mais en contrepoint, je devine cette culture brûlante du surmenage et du crunch qui prédomine dans les métiers créatifs.
À 23h, je me rendais compte que j'aurais du mal à avoir les planches. Je me suis demandé si je devais déroger à ma routine de sommeil ou non. J'ai finalement décidé, disons, de ne pas déroger à ma routine de sommeil et m'endormir à une heure décente. Ça n'a pas été très bien vu. Je chattais régulièrement sur le chat parce qu'on m'avait dit que la commu était cool et effectivement, je trouvais que c'était sympa. Donc, je balançais mes petites planches, je discutais un peu avec les gens sur le chat. Mais, et là, c'est un peu personnel, mais il y a des choses qui m'ont dérangé. Notamment les propos de certaines personnes qui pouvaient beaucoup inciter à la privation de sommeil, qui disaient... je me rappelle, il y avait quelqu'un qui avait très mal à la tête et qui disait « Ouais, je sais pas, je vais peut-être aller dormir. » Et il y a quelqu'un qui lui a dit « Non, prends une pilule et remise-y-toi. » Ça m'a un peu choqué, du moins l'ambiance qui... Enfin, je dis pas tout le Discord, je dis pas toute la communauté, je dis juste à un moment donné certaines personnes sur le Discord. Vous pouvez avoir des propos comme ça. Pour des raisons personnelles, ça m'a choqué. Et j'ai décidé finalement, après une petite exclamation, de quitter le Discord et je n'y suis jamais retournée.
Et je pense que je ne suis pas allée sur le Discord des 23h BD parce que je connais pas les gens et je connais pas très bien la communauté BD. En plus, j'ai eu un peu des mauvais retours cette année. En gros, il y a les gens qui sont très... les règles, c'est hyper important et tout. Et les gens qui sont en mode non, mais après c'est aussi un challenge de plaisir et tout, mais j'ai toujours peur de tomber sur des gens comme ça qui disent des choses sur ton travail alors que t'es sur un marathon et que le plus important c'est d'être motivé jusqu'au bout et de pas lâcher quoi. Mmh. Ou en tout cas d'essayer de t'amuser et de prendre ça un peu à la légère quoi. Mais voilà. Mais du coup moi j'ai préféré faire ça avec mes potes et c'était très très bien. Et c'est très motivant quand il est 4h du matin et que bah, t'as très envie de dormir mais que bah Il faut y aller, quoi. Faut terminer, faut se donner au maximum.
Effectivement, ce serait bête de perdre cette idée qu'on est tous là pour créer ensemble et qu'il n'y a pas, enfin, que ce soit le NaNoWriMo ou les 23 heures de la BD, il n'y a pas de prix à la fin en soi. Il n'y a pas de jury qui décide qui donne les 3 gagnants du challenge. C'est uniquement, en fait, juste pour soi et pour avoir un petit icône sur notre profil. Donc ouais, des fois, pour moi, ça va peut-être un peu loin avec les idées de privation de soi, etc. Mais on peut trouver l'équilibre là-dedans.
Bah, je suis toujours trouvé avec des gens plutôt avec un discours de bah, « si t'en peux plus, c'est pas grave ». De toute façon, comme je disais, c'est vrai qu'il y a une récompense du lapin d'or, mais en vrai, c'est pas l'objectif. C'est vrai qu'il faudrait pas que le challenge devienne une sorte de punition physique où le but, c'est de se surpasser, vraiment que ça reste... quelque chose d'agréable. Enfin, je trouve ça super chouette. Par exemple, il y a plein d'enfants de 6 ans, 5 ans qui participent. C'est souvent eux qui gagnent en premier parce qu'ils finissent en 2 heures. Et je trouve ça chouette, justement, qu'il y ait ce genre de public qui s'en fiche un peu plus d'elle, justement. C'est vrai qu'il y a toujours des gens en mode, oh là là, il faut faire des beaux dessins, il faut rester constant, mais je trouve que c'est pas la majorité du groupe, et du coup, c'est agréable de pouvoir faire ce qu'on veut.
Pour compléter ses propos, je souhaite lire un petit extrait de la rencontre entre Turalo, membre fondateur des 23 heures de la BD, et un représentant du collectif Autrice Auteur en Action 2020, qui, je rappelle, est partenaire de l'événement sur cette édition. Ce type d'exercice n'est possible que dans le cas de choix individuels, mais ne saurait être imposé à quelqu'un par un tiers. Le faire pour soi, c'est bien, le faire sur commande est un autre problème. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet échange sur l'espace blog du site officiel des 23 heures de la BD, que nous ne manquerons pas de relayer en description du podcast de la présente émission. Pour en revenir à mes interviewés, je leur ai également demandé comment allait se passer leur après 23 heures de la BD.
J'étais hyper contente de cette édition, sincèrement. Déjà de 1, parce que j'ai produit quelque chose de différent de ce que je faisais habituellement. Et je suis un peu sortie de ma zone de confort en y restant par rapport à mes couleurs, par exemple. Mais j'ai eu des propositions de rachat que je ne m'attendais pas à voir. Et du coup, je suis en train de réfléchir à une potentielle édition du truc, quoi. Je pense que, par contre, ça a vachement impacté mon travail perso. Je me sens un peu plus détachée de mon trait et de ce que les gens peuvent penser de mon travail en général.
Chaque BD qu'on fait, sachez quoi, c'est vraiment des one-shots que j'ai pas non plus envie de continuer parce qu'à chaque fois, pour réussir le défi, je dessine moins bien que ce que je suis capable de dessiner, donc j'ai pas forcément envie de reprendre. Ça voudrait dire déjà redessiner les 24 planches en joli. J'espère continuer à participer le plus longtemps possible, mais c'est pas non plus mon objectif de faire ça à vie. J'entends que ça m'amuse, je le fais. Mais disons que c'est un bon moyen de se rappeler qu'on est capable de faire des choses.
Pour au global, je dirais que oui, il y a une suite qui est celle qu'on décide d'en faire. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont prendre leur BD, qui vont la finir plus tard, qui vont la poster sur d'autres sites, qui vont l'améliorer, qui vont peut-être en faire une longue BD de 196 pages par la suite. Enfin, ou alors ne jamais rien en faire et juste être content de ce qu'on a fait, ce qui sera probablement mon cas. Si je dois parler au personnel, et là vraiment juste moi, quoi, je ne sais pas si je vais terminer cette BD en soi, mais ce qui est sûr, c'est que l'aspect graphique que j'ai pu développer pendant les 23 heures de la BD va beaucoup m'aider dans la poursuite de l'écriture de la pièce de théâtre qui était à l'origine de cette BD. Et sinon, je pense que je reparticiperai aux 23 heures parce que j'ai quand même trouvé ça fun. Je souhaite bon courage à tout le monde qui veut se lancer dans le challenge un jour, la prochaine fois, ou n'importe quel challenge créatif en soi.
Actuellement, avec le confinement, c'est un petit peu difficile de battre le fer quand il est encore chaud. Mais ce que j'aimerais beaucoup, c'est à la fin du confinement, en faire des petites instructions papier, en faire des petits fanzines que les gens pourraient acheter pour mettre dans leur chien.
À l'heure où je vous parle, vous pouvez déjà commander le fanzine de Frick sur sa page Utip. On vous mettra le lien en description. Ainsi d'ailleurs que se revoyant aux travaux de June, Nathan et Flora, pour vous permettre de suivre à elles et eux aussi ce que sera la suite de leurs 23 heures de la BD. Avant de passer à la suite avec une petite pause musicale sur La vie ne vaut rien, interprétée par Tim Dupe, je laisse le soin à June d'apporter le mot de la fin.
Globalement, l'art c'est cool. Voilà, c'était mon mot idiot de la fin. Salut.
Il a tourné sa vie dans tous les sens pour savoir si ça avait un sens, l'existence. Il a demandé leur avis à des tas de gens, ravis, ravis de donner leur avis sur la vie. Il a traversé les vapeurs des derviches tourneurs, des hashish fumeurs, et il a dit: petit sein de mon ami. Là je dis rien, 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 rien ne vaut la vie. Il a vu l'espace qui passe entre la jet set, les faces, les palaces, et puis les techniciens de surface. peur dans les clochers, les monastères. Vois le vieux sergent Pépère, mais ce n'est que Richard Gere. Il est entré comme un insecte sur site internet, voir les gens du secte. Et il a dit: la vie ne vaut rien, rien. La vie ne vaut rien. Mets-moi quand je tiens, tiens. Mets-moi quand je tiens. Là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami. Là je dis: rien, rien, rien. Rien ne vaut la vie. Il a vu manque d'amour, manque d'argent, comme la vie c'est détergent, et comme ça nettoie les gens. Il a joué jeux interdits pour des amis endormis et la nostalgie. Et il a dit: ah, la vie ne vaut rien, rien. La vie ne vaut rien. Mais moi quand je tiens, tiens. Moi quand je tiens, là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami, là je dis: rien, 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 rien ne vaut la vie.
Interprété par Tim Dupe. Vous êtes sur Syllabe et vous écoutez J'irai cracher sur vos ondes. Ce soir, on a couru après les moulins, on a couru après les petits lapins, et après ce marathon littéraire et artistique, on va se poser, on va souffler, on va écouter la chronique de Lucie.
Salut l'équipe, salut les auditeurs. J'espère que le confinement se passe à peu près bien pour tout le monde. En tout cas, pour moi comme pour beaucoup, les livres aident à bien vivre ce confinement. Qu'il soit pour s'évader, réfléchir ou s'émoustiller, on le voit bien, les livres et la lecture sont des sujets majeurs en ces temps reclus. Mais les libraires, eux, les libraires dont c'est la mission de prendre soin de ces petits bijoux qui nous accompagnent aujourd'hui, ils sont où? Ils font quoi? Ils la vivent comment cette période? Bon, d'abord, ils sont qui?
Moi, c'est Étienne Vincent. Je suis libraire et éditeur à la librairie Critique. C'est une librairie qui est rennaise. C'est spécialisé en premier lieu en bande dessinée, spécialisé aussi en romans de science-fiction, fantasy, fantastique et un petit peu de polar.
Moi, je suis Lucie Pinault. Je suis libraire, spécialisée en jeunesse et en bande dessinée. Je travaille dans une librairie dans la région parisienne, à Rueil-Malmaison. Donc c'est une librairie qui s'appelle Dédicace.
Salut Étienne, salut Lucie, enchantée. Je vous vois au travers de mon écran, tranquille, aujourd'hui on s'est donné rendez-vous à 15h après le déjeuner, normal. Je sais même pas si vous avez mis de quoi vêtir le bas, je veux pas savoir. Mais j'imagine que la période qui a précédé le confinement ne devait pas être facile au travail. Ça s'est passé comment ?
La période de pré-confinement s'est tombée sur la période de Rue des Livres, qui est un événement culturel local fort pour nous, et financier aussi d'ailleurs. On avait fait des commandes. Ça, c'est un manque à gagner, parce qu'on ne peut pas écouler le stock spécifique qu'on a commandé pour ce salon.
Avant le confinement, les enfants ont arrêté d'aller à l'école, donc moi, dans ma librairie, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de fréquentation.
C'est une période qui était censée être, entre guillemets, relativement calme en termes de parution. Et ça va s'annoncer presque comme une rentrée littéraire. Tu vas avoir l'accumulation des nouveautés d'avant confinement, de pendant le confinement et de fin de confinement qui vont s'accumuler. Ça va être aux éditeurs de réorganiser leurs plannings éditoriaux pour pas créer embouteillage.
Bon d'accord les libraires, je sens que ça va pas être simple, je veux pas vous stresser pour l'après, alors parlons un peu lecture. Vous la vivez comment la lecture pendant le confinement ?
Habituellement je lis des nouveautés et des livres qui vont bientôt paraître. Là, c'est un peu différent, c'est des lectures pour moi. Donc j'ai pris Dans la main du diable de Anne-Marie Guerra et j'ai pris aussi Les Trois Mousquetaires. A fortiori, ce sera des livres qui seront enrichissantes pour mon boulot, effectivement.
Moi, en tant que que fan de lecture, je suis plutôt content d'être confiné pour lire. Habituellement, j'avoue que je lis beaucoup plus de BD. Ben, le confinement, c'est l'occasion de revenir pleinement au roman. Donc, je suis hyper content d'avoir du temps pour lire des romans de manière complète. C'est 100% de la lecture plaisir de retour.
C'est que nos libraires se font plaisir et ils ont bien raison. Et dans tout ça, vous n'avez pas un petit livre de confinement coup de cœur à proposer à nos auditeurs ?
Un petit coup de cœur confinement. Je vais vous parler du livre que je suis en train de lire actuellement. Ça s'appelle donc Dans la main du diable de Anne-Marie Guérin. C'est un roman qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Gabrielle et qui va en fait apprendre la mort d'un de ses cousins et qui est mort dans des circonstances mystérieuses mais à l'étranger en Birmanie. Et a priori, il serait mort il y a plus de 5 ans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle va mettre le nez dans des affaires qui sont
puisque celles-ci sont fermées, est-ce qu'ils vont organiser une mafia de contrebande universelle ou bien est-ce qu'on n'est pas tous finalement collés devant Netflix? C'est là quoi, il y a tous les gibis qui sont en ligne et puis, attendez, c'est la saison 2 d'Attack on Titan que je vois là-bas. Faut que je conclue cette émission plus vite, il y a Irène et Titan qui m'attendent.
La littérature qui prend son temps, c'est un super livre de confinement.
Bah, alors, j'ai eu un énorme coup de cœur confinement, mais le problème, c'est que le bouquin n'est pas encore paru. C'est Un long voyage de Claire Duvivier. Donc, c'est un roman, récit, initiative, un parcours de vie, en tout cas, d'un homme qui est esclave. C'est au sein d'un empire où l'esclavage a été aboli. Et c'est une situation hyper particulière par rapport à sa situation géographique dans une zone où l'Empire est arrivé très tardivement et il va devenir le secrétaire de la gouverneure de cette région. C'est un roman qui, pour moi, rentre clairement dans la catégorie des grands bouquins parce qu'il m'a fait passer un peu par tous les états. C'est une autrice qui a vraiment une plume sobre et en même temps hyper élégante, quoi.
Merci pour les conseils, les copains. Vivement la fin du confinement. Pas facile d'avoir accès aux livres en ce moment. Une petite astuce d'ailleurs pour nous aider à se les procurer tout en évitant l'empirique Amazon.
Ce que je conseille aux gens, vraiment, c'est de relire des livres qu'ils ont eus, qu'ils ont adorés et de relire ce qu'ils ont à la maison, quoi. C'est super chouette de redécouvrir un livre des années après l'avoir lu et adoré parce qu'on peut l'aborder d'une autre manière et découvrir des choses qu'on n'avait pas vues à l'époque. Le samedi 14 mars, juste avant le confinement, il y a énormément de gens qui sont venus faire du stock parce que les rumeurs de confinement ont fait que les gens se sont précipités chez nous. Des pâtes, du PQ et des bandes dessinées, en tout cas.
La solution pour moi, c'est numérique parce que les éditeurs fonctionnent encore de manière numérique. C'est peut-être le moment de s'y mettre, quoi. Ça a été un des grands questionnements sur la lecture il y a quelques années de ça. Est-ce que ça va pas bouffer le livre papier? Est-ce que c'est la mort du libraire? Aujourd'hui, pour moi, il n'y a plus d'inquiétude à avoir dans le sens où on se rend bien compte que c'est complémentaire, en fait.
Ok, c'est noté. Remettre le nez dans ma bibliothèque ou sur mon PC en attendant de vous retrouver. Mais avant de se quitter, je voudrais un petit aveu de libraire. C'est quoi ton activité pas très libraire pendant le confinement? Si, tu sais, celle que t'es tentée de faire au lieu de te mettre sérieusement à lire.
Moi, je regarde pas du tout de série. Je suis apprentie sportive en ce moment. Je suis apprentie cuistot. Je suis en plein apprentissage dans le jardin aussi. Je fais des apéros Messenger, mais voilà, ça bouscule un petit peu les habitudes finalement. Mais pas les apéros.
Eh ben, alors moi, je suis un peu un geek de Counter-Strike. Voilà, donc je n'y joue pas parce que je suis pas chez moi. Mais je regarde les compétitions sportives. C'est un first personal shoot où, en fait, c'est deux équipes de cinq qui s'affrontent sur une carte et qui doivent tuer tous les autres, quoi.
Et ben voilà, je les ai eus, mes aveux. Je les ai toujours. Contente d'avoir eu de vos nouvelles, les amis qui s'occupaient bien de nos précieuses lectures. Et on vous retrouve dès qu'on sera libre, promis.
Merci Lucie pour cette chronique qui initie là notre cycle sur la lecture en situation de confinement. La semaine prochaine, on va continuer à parler des lecteurs et des lectrices. L'occasion de se poser 2-3 questions comme « Maintenant qu'on a tout le temps du monde, la population française va-t-elle se muer en une horde de petits rats de bibliothèque ?» Prenez soin de vous, lisez pas trop les chroniques anxiogènes sur le Covid-19, rendez-vous sur la page Facebook J'irai cracher sur vos ondes ou sur le compte Twitter @JICSVO pour suivre nos actus et nos recommandations littéraires. Et aussi, oubliez pas, faut suggérer un titre de littérature classique pour Marion, hein, oubliez pas, c'est important. Et rendez-vous la semaine prochaine, même heure. Bye!